Ma bouteille à l'océan. Chapitre 21.
Clem! Clem!
Tout s'accélère. Je le sens. C'est comme si un volcan se réveillait sous mes pieds, ou au contraire, qu'il allait s'enfoncer dans l'océan pour ne plus laisser derrière lui qu'un trou bleu entouré de corail, comme si les nuages complotaient avant de fondre sur le sommet des montagnes pour les raboter. Comme si le calme quotidien enveloppant chacun des matins marquisiens cédait pour une fois à la panique.
« Clem ! Clem !»
Après être remonté avec Héloïse de l'espace Gauguin jusqu'au soleil redouté, j'ai cru reconnaître la voix de Maïma. J'ai cru qu'elle appelait au secours.
« Clem ? Maman ? Tanae ?»
Mais non, je rêvais. Dans ma tête se mélangeaient peur et réalité. Mon envie de protéger Maïma qui se heurtait à son indifférence. Pire, à son hostilité. J'aurais voulu que ma petite souris se jette dans mes bras, mais je n'entendais que le bruit de ses pas et ceux de son gendarme qui s'éloignaient déjà. J'ai eu seulement le temps d'apercevoir leurs ombres qui couraient sur la pergola, comme si elles fuyaient un cataclysme. Ou moi.
« Poé, Moana !»
Je n'ai pas rêvé cette fois. C'était la voix de Tanae, énervée, qui appelait ses filles, sûrement parce qu'elles traînaient. En un réflexe stupide, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai cru que les flics débarquaient enfin, que c'est ce qui provoquait toute cette agitation. Un avion avait atterri, une dizaine d'agents de la BRJ de Tahiti à son bord. Ils seraient là dans un quart d'heure. Un instant, je me suis senti soulagé. Le cauchemar était terminé. Mais non, toujours aucun flic à l'horizon. J'ai peur. Je dois vous l'avouer, j'ai peur. J'ai tenté de rejoindre Maïma. Elle était installée dans la salle Maeva avec son capitaine qui tournait comme un chien de garde autour d'elle. Elle a refusé de me parler. Elle m'a regardé une nouvelle fois comme si j'étais la pire des menteuses. Ou, pour être plus précise, comme si j'étais la tueuse. Parce qu'on lui a dit? Parce que c'est ce qu'on veut lui faire croire? Ce n'est pas moi, Maïma. Je te le jure. Je n'ai jamais tué personne. Tout ce qu'on t'a raconté est un coup monté. Il faut que tu me croies. Il faut que vous me croyiez. Je dois protéger Maïma. C'est l'absolue priorité. Pour la première fois depuis quelques jours, je me suis retrouvé seul, avec la sensation que tous les autres pensionnaires, sauf moi, étaient invités dans la chambre des secrets. Telle une pestiférée, la cinglée qu'on évite, qu'on isole, avant de lui enfiler la camisole. Suis-je folle? Ou veut-on me le faire croire? Je me sens dans la peau de la condamnée que d'une minute à l'autre on va venir chercher. On lui laisse encore quelques instants de liberté. De liberté surveillée. Dois-je tenter de me sauver? Pourquoi le ferais-je? Ce serait comme avouer. Avouer des crimes que je n'ai pas commis. Héloïse s'est installée pour dessiner sur l'un des canapés de la salle Maeva. Tanae s'active dans la cuisine. Yann et Maïma se sont assis devant l'ordinateur de la réception. Je n'ai pas envie de m'enfermer. J'ai besoin de marcher. Je sors sans m'éloigner. Je fais quelques pas vers la bananeraie, juste au-dessus du soleil redouté. Je m'enivre de l'odeur des fruits, mûrs à point pour être cueillis. Bouc émissaire, solitaire, seul. Du moins, je le crois. Derrière moi, j'entends des bruits de pas. Je me retourne paniqué. Je découvre un sourire inquiet, en miroir au mien. La rencontre de deux des dernières coupables potentielles. Marie-Ambre et Clem. Elle et moi. Je reste sur mes gardes. J'ai l'impression d'être le personnage d'une pièce de théâtre, d'un jeu d'ombre et de masque dont je suis la seule à savoir qui je suis. Elle s'approche de moi. Je voulais te parler, mais pas ici. Plus encore, je me méfie. Depuis le début, elle est tout en haut sur ma liste des coupables possibles. Elle aussi était la maîtresse de Pierre-Yves. Mais c'est elle, pas moi, qui était avec lui dans la cabane du maire la nuit où il a été tué. Dès le départ, j'en ai été persuadé. Je tremble. Je repense à l'odeur dans la cabane au petit matin. 24 faubourgs d'Hermès. Tellement facile à identifier. Je ne dois pas m'éloigner. Je dois rester à proximité du soleil redouté. S'il y a le moindre risque, je peux crier.
Que veux-tu ?
Protéger Maïma. Avec toi. Il faut que tu m'aides. Elle est en danger avec ce gendarme. Il n'est pas clair. Il monte un complot de toutes pièces. Je suis d'accord. 100 fois d'accord. Si Yann n'avait rien à cacher, les flics de Tahiti seraient là depuis longtemps. Rien d'ailleurs ne nous prouve qu'il soit gendarme, sinon sa parole et celle de sa femme. Rien ne nous prouve non plus qu'elle soit commandante de police. Grâce à leur statut d'enquêteur, ils contrôlent tout, ont pris l'ascendant sur nous, sur Maïma, et restent au-dessus de tout soupçon, tout en étant les seuls à manipuler chaque preuve. Sans parler de son jeu étrange de séducteur dès que sa femme a le dos tourné. Sans même que je m'en aperçoive, nous nous sommes éloignés de quelques mètres du soleil redouté, sous les bananiers. Je demande en m'efforçant de ne pas trembler.
Tu proposes quoi ?
On s'associe, sans rien dire aux autres. Non, m'intime une voix dans ma tête. C'est trop risqué. C'est peut-être elle qui me manipule. Et Yann est un brave capitaine à qui un tueur rusé fournit de faux indices. La première chose à faire, dis-je, c'est de prévenir la BRJ de Tahiti. Le faire nous-mêmes en arrêtant de faire confiance à Yann pour jouer les intermédiaires. Bonne idée. Mais de toute façon, même si on les appelle maintenant, ils ne seront pas là avant 4 heures. On doit agir avant. Elle a raison, sur toute la ligne. Mais je sais que je dois rester sur mes gardes. Nous avons continué de marcher, sans perdre de vue le soleil redouté. Sans l'avoir prémédité, nous nous retrouvons devant le tiki couronné. Celui de la beauté, avec ses bagues sculptées aux doigts, ses boucles aux oreilles et ses bijoux au cou. Celui, d'après l'avis général, baptisé Tiki de Marie-Ambre. Évidemment. Elle s'arrête devant la statue de pierre, vérifie d'un regard affolé que personne ne nous espionne, puis parle d'une voix pressée. Il faut agir vite. Tout à l'heure, Poé et Moana ont raconté à Tanae qu'elles étaient dehors la nuit dernière, qu'elles s'étaient abritées derrière la grange et qu'elles ont vu quelqu'un partir et revenir sur un second poney. J'ai tout entendu. J'étais dans la salle Maeva avec Héloïse. Elle ne voulait en parler qu'aux gendarmes. C'est peut-être déjà fait. Je ressens d'un coup un profond soulagement. S'il y a bien 2 personnes au soleil redouté à qui je puisse faire confiance, c'est Poé et Moana. 2 ados sans histoire. Elles n'ont aucune raison de mentir. Si elles ont vu le coupable, alors il sera démasqué. Et je serai définitivement innocenté. J'étais dans mon lit cette nuit. Je n'ai jamais volé de cheval. Je ne suis d'ailleurs jamais monté sur un cheval de ma vie.
Ce n'était pas moi, dis-je.
Ni moi, assure-t-elle. Je te crois. On doit se faire confiance. J'ai une bonne raison de te faire confiance. Elle s'appuie contre le tiki couronné, puis me lance un sourire figé, le même que celui de la Marie-Ambre de pierre, avant d'ajouter « J'ai quelque chose à te montrer. » Le tiki nous observe toujours, témoin muet d'une conspiration désespérée. Elle fouille la poche de son short, sans cesser de me parler. « Cela fait plus de 24 heures qu'on a découvert Martine assassinée, et il n'y a encore aucune enquête officielle de lancée. Il faut qu'on ouvre les yeux, c'est évident, le prétendu gendarme et la prétendue commandante cherchent à gagner du temps. Tu te souviens de Dipti Nègre ? Le coupable se fait passer pour mort. Eh bien, ils ont légèrement modifié le scénario. Farahin fait croire qu'elle a disparu, pour frapper où elle veut, quand elle veut. Tout est peut-être lié à cette histoire de tueur-tatoueur. Pierre-Yves voulait écrire un roman sur cette affaire. C'est son manuscrit qu'on a découvert éparpillé au vieux cimetière. Ils nous font croire que Farahin enquêtait dessus, mais si ça se trouve, elle n'est pas plus commandante que moi, et ils cherchent juste à ce qu'on ne se doute jamais de la vérité. Regarde. Elle tient quelque chose dans la main. Elle l'ouvre lentement. Il était dans le sac de Yann, il y a une demi-heure. Il l'avait laissé dans la salle commune. J'ai fouillé. Je reconnais, au creux de sa paume, le téléphone. Coque rouge barrée d'une grande croix blanche. Sans aucun doute, c'est celui de Farahin. Mes pensées se bousculent. La commandante est supposée avoir été enlevée avec son portable par l'assassin de Pierre-Yves François, alors qu'elle attendait Yann au vieux cimetière. Celui en possession du portable est forcément le coupable. Soit c'est Yann, soit c'est... Tu as entendu ? Elle s'est brusquement figée et s'est mise à chuchoter. Quoi ? Une respiration, juste à côté de nous. Derrière le tiki. Je coupe ma propre respiration. Écoute chaque bruit de la forêt. Je n'entends rien. Rien d'autre que les fantômes dans ma tête. Les fantômes qui prennent la voix de Maïma et qui appellent à l'aide. « Clem, maman !»«
Là !»
hurle-t-elle soudain. Je n'ai le temps que de deviner un mouvement dans la pénombre, que de crier.
« Il ne faut pas qu'on se sépare !»
Elle commence à courir, affolée, et disparaît entre les branches de bananiers, à l'opposé du soleil redouté. La dernière chose à faire. Je cours à mon tour vers la pension. Je dois y retourner. Tant pis s'ils y ont organisé un coup monté pour m'accuser. Je suis innocente. J'aurai tout le temps de le prouver. Mon collier bat sur ma gorge. Il est censé me porter bonheur. Je dois rester vivante. Pour Maïma, c'est ma dernière pensée, avant de ne plus faire que courir à travers les branches et les feuilles qui me fouettent visage et jambes. Pour Maïma.